François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. L'Euro 2016 nous remet face à un des aspects les plus sombres de l'immense popularité du football. Le hooliganisme des bandes organisées qui profitent d'une compétition pour s'adonner à leur plaisir de la bagarre. Mais la violence des récents échauffourées semble faire monter d'un cran la question de la sécurité publique. Le problème inquiète les autorités responsables du maintien de l'ordre, les instances dirigeantes du foot, mais aussi tous ceux pour qui les matchs sont un moment de spectacle et d'émotion. Alors, peut-on débarrasser le foot du hooliganisme? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Luc Poignant est porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Nicolas Xismartoff est lui journaliste à SoFoot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le hooliganisme est un phénomène ancien. Qu'est-ce qui est nouveau dans celui auquel cet Euro 2016 fait face? Je commence avec vous, Luc Poignant.
Ce qui est nouveau, c'est la violence qui a été décuplée. C'est-à-dire que si on prend les événements qui sont produits à Marseille, c'était une violence qu'on n'avait encore jamais rencontrée. D'autre part, il y a de nouveaux hooligans, si on peut exprimer comme ça, que sont les Russes. Et en même temps, pour lutter contre le hooliganisme, il faut un certain nombre de renseignements, et malheureusement, la Russie n'a pas joué le jeu.
D'accord. Nicolas Xismartoff, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, enfin là, pour le coup, effectivement, la nouveauté, c'est qu'avec notamment un Euro à 24, les pays de l'Est sont arrivés, et c'est quand même là, aujourd'hui, où existent les véritables foyers de hooliganisme, qui sont quand même très spécifiques. Hein. C'est une forme de hooliganisme qui est, entre guillemets, beaucoup moins capillaire avec l'ensemble du public, et qui est beaucoup plus lié à une intra-spécialisation. C'est des gens qui vont se rencontrer dans des bois ou à l'extérieur des villes, qui ont des hygiènes de vie très strictes, justement pour pouvoir être performant dans la baston, c'est-à-dire ne boivent pas, ne prennent pas de drogue, sont souvent liés à des organisations politiques ou pour lesquelles ils font le service d'ordre. Ils sont très différents de ce qu'on a pu observer. Et voilà, pour un de nos journalistes qui était à Marseille me racontait qu'il passait au milieu des foules et qu'il regardait les gens en disant français, pas français, et si vous étiez français, ça ne vous désintéressait pas. Ils étaient venus cibler spécifiquement les Britanniques. C'est quelque chose de nouveau, d'organisé, de très difficile. Et pour le coup, là, c'est la question de la coopération entre... Je renvoie évidemment à la personne qui est en face de moi, mais c'est la question de la coopération entre les différentes polices. Parce que, par exemple, l'un des responsables des supporters officiels russes qui est arrivé, qui donc a été interpellé par la suite, d'où un quiproquo avec la Russie, il était lui-même un ancien hooligan, plutôt lié à la mouvance d'extrême droite radicale, et il était un ancien assistant, je crois, d'un député ultranationaliste. Donc on voit bien que c'est très compliqué, là, de fonctionner, contrairement à ce qui peut exister aujourd'hui avec les Britanniques ou avec les Allemands, par exemple.
Alors, abordons ce point-là, puisque Nicolas Xismartoff l'évoque, cette collaboration entre police, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est suffisante,
Jusqu'à maintenant, elle était efficace et suffisante, puisque les pays retenaient sur leur sol des gens particulièrement dangereux. Ils nous prévenaient des groupes qui allaient arriver sur le territoire national en disant, attention, on les a identifiés, etc. Jusque-là, ça se passait pas trop mal, sauf que la Russie, a priori, ne joue pas le jeu. Et quand on entend la dernière déclaration du député à la Douma qui trouve que c'est amusant, qui les encourage à continuer, ça fait quand même un peu peur pour l'avenir du football.
Après, il y a une autre question qui est peut-être liée à la spécificité française, c'est que dans notre pays, la lutte contre l'hooliganisme, c'est quand même beaucoup focalisé sur la question de la gestion des groupes ultra et sur la question des déplacements de supporters, sur la question des fumigènes et compagnie, et que là on est confronté à une violence ultra spécialisée, et ça demande peut-être aussi d'autres formes d'intervention que les compagnies de CRS. Pour le coup, à Marseille, une fois que les bagarres se sont déclenchées sur le Vieux-Port et la cour Estienne-d'Orve au milieu de la population, c'est très dur pour les forces de police et les CRS qui sont peut-être même pas adaptées. Généralement, les spécialistes étrangers qui connaissent bien ces groupes expliquent qu'il faut des forces plus mobiles, des agents civils qui interpellent les leaders dès le départ, dès qu'ils les repèrent l'action. Donc ça demande peut-être aussi à réfléchir comment nous on est capable, parce qu'on va être amené à accueillir même notamment des clubs étrangers, comment on est capable de penser notre répression, parce qu'elle a peut-être été focalisée sur des cibles particulières quand on voit l'international législatif, qui ne sont pas adaptées en tout cas à ce que nous vivons aujourd'hui, ça c'est certain.
Vous voulez dire, oui,
moi j'aurais juste souligné quand même deux choses. Premièrement, le grand professionnalisme quand même de mes collègues, parce que des blessés, il y en a eu effectivement, comme vous le disiez, en fait c'était deux groupe qui se cherchait, les gens autour, à la limite, je dirais qu'ils ne risquaient rien. Ce grand professionnalisme a permis quand même qu'il y ait un minimum de blessés. Et puis d'autre part, il est vrai qu'en France, on n'est pas spécialement confronté au problème des hooligans. Et pour finir, les Russes, c'est quelque chose d'effectivement particulièrement nouveau. Mmh. En même temps, et il faut quand même le rappeler, en même temps, on a en peinture de fond, on a quand même l'antiterrorisme, on a l'euro à gérer, mmh. on a les manifestations, on a Calais et on a le tout venant, la sécurité habituelle et normale dans le pays. Donc effectivement, ça fait beaucoup, et peut-être y avait-il pas beaucoup d'hommes sur place parce qu'ils étaient aussi autre part. Enfin, la situation est quand même très particulière en ce moment.
Monsieur Ksismartov évoquait ces quasi-professionnels, on va dire, du hooliganisme qui s'entraînent au combat dans cette perspective. C'est un phénomène large qui concerne l'hooliganisme ou c'est des bandes un peu limitées?
On va dire que ça concerne plus un type de hooliganisme parce que on prend l'exemple, si on prend l'affrontement des Russes et des, comment dirais-je, des Anglais. Les Anglais, eux, sont venus, ils font aussi la fête. C'est-à-dire que quand ils sont sortis sur le vieux port, ils étaient tous avinés. Les Russes, absolument pas. Mmh. Ils étaient entraînés, ils ne boivent pas, et ça a été très bien dit, sont des gens qui s'entraînent toute l'année. Ils travaillent parce que sont des gens qui travaillent la semaine, qui s'entraînent le week-end, qui se donnent des rendez-vous, qui se tapent dessus pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller, et qui après, en force constituée, se retrouvent dans des pays étrangers pour en découdre avec les Anglais, parce que il y a cette compétition, il y a le match en lui-même, mais il y a le match avant et puis le match après.
D'accord. Alors, il y a, si j'ai bien compris, il y a les surentraînés, ceux qui font ça de manière un peu régulière pour ces moments précis. Puis il y a aussi les foules un peu turbulentes, on va dire, à gérer, à canaliser. On a l'impression que la police fait face à plusieurs fronts.
Alors, il faut encore, je sais que ça peut, pour des néophytes, ça peut sembler surréaliste. Il y a des cultures hooligans, il y a des cultures de la violence dans le football. C'est pour ça qu'on dit il faut extirper. On peut pas extirper le hooliganisme du football parce qu'il est incrusté dedans.
Il est inhérent au
parce foot. Que le football est dans la société, il est un acteur de la société, il participe à tous ces mouvements. La violence qui existe dans le milieu hooligan, elle est quand même assez compréhensible quand on connaît un peu la société russe, comment elle fonctionne aujourd'hui et ce qui s'y passe. Les hooligans russes, ils s'entraînent au MMA dans des clubs où ils ont à côté d'eux des policiers d'élite et des militants d'extrême droite ou des mafieux ou des gardes du corps de mafieux. Donc c'est un peu quand même cette ambiance Far West entre guillemets hein, qui explique ce hooliganisme. Et les Anglais, eux, ils sont l'héritier d'une forme de hooliganisme qui est plus entre guillemets populaire. Et en gros, ils aiment sortir, se déplacer en groupe, faire corps, avoir un sentiment de puissance, beaucoup picoler, et quand on les cherche, on les trouve. C'était plutôt ça pendant très longtemps le profil du hooligan anglais, une fierté, ils appellent ça l'agro, c'est-à-dire on est des bonhommes et on va pas se laisser marcher dessus. Et à côté de ça, vous avez aussi l'apparition de ce qu'on appelait des firmes, des gens qui aiment profondément le football mais qui ont leur match à côté et qui vont se taper en plus après le match. Alors c'est vrai que quand je raconte ça, ça peut donner l'impression de quelque chose d'assez étonnant, mais c'est un monde avec ses codes, et les Anglais font partie de la légende fondatrice de ce monde. Donc allez se taper les Anglais, tous les supporters hooligans, ont envie de montrer qu'ils en sont, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont venus à Marseille et pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'en plus, je pense que là c'est une deuxième question, mais on aurait quand même pu avoir un petit dialogue avec l'UEFA, parce qu'en plus il y avait un passif spécifique à Marseille par rapport à ce qu'on dit, pour leur demander si on pouvait pas déplacer ce match pour enlever un des problèmes qui était les confrontations avec la population locale et le mettre dans une ville plus petite où ça aurait été peut-être plus simple de gérer. Voilà. Là, l'UEFA a été quand même assez, pour employer un vocabulaire courtois, psychorigide.
Du poignant.
Ou angélique.
Ou alors complètement désintéressé en considérant que son seul problème c'était la sécurité dans le stade, en sachant que même dans le stade, malgré tout, même si c'était
c'est pas mon rôle que de défendre l'UEFA, mais l'UEFA est confronté dans le cadre de la menace terroriste à la gestion de la sécurité dans les fan zones, à l'intérieur même des fan zones et à l'intérieur des stades. Donc considérant que eux prennent leur part et que nous, policiers, nous sommes gestionnaires de la sécurité à l'extérieur et des fan zones et des stades. Eux, ils prennent leur part à l'intérieur et puis ils nous laissent gérer l'extérieur. Donc effectivement, c'est très très difficile. D'autant plus que quand on voit la vidéo qui circule sur le net et que j'ai vu aussi à la télé sur je sais plus quelle chaîne, où on voit ce supporter russe qui est rentré en Russie et qui trouve que ça a été formidable de s'affronter avec les Anglais. Ça fait peur quand même, parce que c'est une nouvelle manière de se battre.
Oui, alors Nicolas Ksismartov avait l'air de de dire quelque part qu'il peut y avoir connivence en Russie entre les autorités et certains hooligans?
Bah, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans la réalité, un certain nombre de groupes hooligans font de groupes de supporters constitués font parfois la sécurité pour les partis politiques de Russie unis jusque même au parti communiste russe d'aujourd'hui hein, qui est très peu comparable à ce qu'il existe qu'on peut comprendre en France et parfois eh ben je sais pas il y a des photos qui circulent justement de ce fameux leader des supporters russes officiels, il est à côté de Poutine lui-même enfin voilà c'est faut comprendre que là pour le coup en plus dans ces pays le rapport à la violence est quand même très différent, c'est comme les Croates et les Serbes. Le rapport à la violence dans des pays qui sortent de configurations de guerre, où malgré tout le rapport à la vie humaine, même ne serait-ce qu'à la délinquance en général, et à la violence n'est pas, ne serait-ce que le nombre d'armes qui circulent, on est quand même dans d'autres contextes et on est quand même, dans ce point de vue-là, confronté à d'autres manières de réfléchir et de penser le rapport à la société.
D'accord.
C'est juste rajouter une petite chose. Sur l'ensemble des pays, on a à peu près 200 spotters. Sur la Russie, à ma connaissance, il n'y en a pas.
Expliquez ce que c'est qu'un
spotter. Je crois qu'il y en a 4-5, mais qui...
Ouais, enfin, qu'on n'a pas vu, toujours.
En tout cas, des compagnies
spotters, en fait, ce sont des policiers spécialisés qui connaissent parfaitement les hooligans et qui, à côté de la police française, disent attention, celui-là est dangereux, celui-là, bon, il n'est pas très dangereux, etc. Donc, ils arrivent à les reconnaître.
Mais les infiltrés, anonymes, non, pas forcément.
Non, pas du tout. Non, soit avec un gilet bleu.
Souvent, ils sont même connus des hooligans. Ils ont déjà cette première vocation. Quand ils apparaissent, normalement, les hooligans savent qu'ils ont été repérés. Donc, finalement, ça fait baisser le principe, c'est qu'ils soient même visibles. D'accord. Pour que ça fasse baisser l'attention.
Et le problème, ils sont 200 sur l'ensemble de l'Euro 2016. Le problème, c'est que, pour la Russie, à ma connaissance, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a 4 ou 5.
Officiellement.
Sincèrement, 4 ou 5, ça fait pas grand chose. Et en même temps, s'ils ne reconnaissent pas et s'ils ne nous signalent pas les gens particulièrement dangereux, donc je vois pas très bien l'intérêt.
Bon, ça, c'est pas systématique. Il semble qu'il y ait des méthodes de lutte contre le hooliganisme, finalement, qui diffèrent selon les pays, non?
Ben oui, puisque on a toujours cette direction nationale de lutte contre le hooliganisme, la DNLH. Le problème, c'est encore une fois, c'est une question de renseignement. Il est évident qu'il y a des hooligans qu'on peut accueillir en France parce qu'ils ont le statut de hooligan, mais sincèrement, ils sont même moins violents que les casseurs qu'on a dans les manifestations aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas signalés, mais qui eux sont particulièrement dangereux.
Donc il faut quoi? Davantage infiltrer le hooliganisme plutôt que de l'interdire? Ce serait ça la solution?
Mais c'est pas vous l'interdisez de fait, puisqu'ils pratiquent la violence. Donc c'est, enfin, d'ailleurs, eux-mêmes, je pense que c'est ce qui les excite.
Empêcher de rentrer dans le stade, les empêcher de rentrer dans le pays quand ils viennent d'un pays étranger.
C'est là où, justement, ça devient très compliqué. Oui. Et là, c'est d'abord qu'on est sur l'euro, donc on est sur la coopération entre plusieurs pays qui n'ont pas tous les mêmes législations. Vous savez, en Russie, hooliganisme, ça désigne une gamme de comportements délictueux qui est extrêmement vaste. Ça va du vol de voiture jusqu'à taguer des murs. C'est considéré le mot hooligan en lui-même n'est pas aussi strict que chez nous. Mais pour revenir à votre question, la lutte contre le hooliganisme pur, ça demande effectivement des gens qui sont spécialisés dans la police, qui font effectivement du renseignement, qui ont une connaissance fine et pas approximative de à qui ils ont affaire, et savoir aussi s'adapter, parce que les Anglais, le problème, c'est pas d'interdire. Et 3000 passeports ont été confisqués en Angleterre. C'est-à-dire qu'on leur a retiré leur passeport et ils devaient venir le jour de match au commissariat dire on n'est pas en France. Parce que c'est une population de supporters qui peut être, qui fait corps, qui est patriote et qui va, si jamais ils se sont agressés, de toute manière, ces gens-là qui peuvent parfois, dans la vue de leur décomparution immédiate, n'ont aucun passif et ne sont, travail ou parfois peuvent être éducateurs et compagnie, vont se battre. Et à côté de ça, vous avez des gens ultra spécialisés, mais qui, comme ils sont ultra spécialisés, ils savent comment éviter les cas d'arrestation, ils savent comment éviter de se faire prendre par les policiers. Regardez les vidéos, il y a des hooligans russes qu'on voit quand il y a une charge de police, ils lèvent les bras, ils se mettent sur le côté. Genre, j'ai rien à voir. Parce que c'est le premier réflexe que vous avez, vous faites pas le fier à bras quand vous avez fini votre travail. Et donc, c'est très complexe, donc ça demande du boulot. D'accord. Et là, je me demande si en France, mais c'est vrai.
Ils sortent facilement des radars, ils sont entraînés pour ça.
C'est une expérience.
Et en même temps, en France, on n'est pas spécialement confronté, c'est ce que je disais au début, on n'est pas spécialement confronté au problème du hooliganisme, et donc on le prend quand il arrive, mais il arrive rarement en France, et fort heureusement, on a d'autres choses à gérer.
On a quand même des cas, il y en a eu avec les supporters du Paris Saint-Germain, par exemple.
Ouais, c'est pas des hooligans, non, c'est plus des ultras, vraiment... quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, et quand on voit ce qui se passe autour du Parc des Princes, c'est deux mondes différents. Ah oui.
L'alcool, c'est un paramètre important. Vous avez dit tout à l'heure que les plus virulents sont souvent sobres.
Bah, là, je parle vraiment des cas russes. Hein. Les cas russes, au Pays de l'Est, on a des cas où ce qu'ils nous disent, ils ont une vie, en tout cas, le jour de, ou les jours où ils vont, ils savent qu'ils vont se battre, ils font vraiment attention pour avoir la tête claire et, après, l'alcool, est-ce que c'est un, l'alcool est un problème en termes de gestion des populations qui peuvent être plus nombreuses. Mais c'est les populations si on a des interlocuteurs, si vous avez des spotters, si vous avez des policiers qui sont présents et qui sont peut-être plus facilement régulables. Interdire l'alcool dans un certain périmètre en sachant qu'ils peuvent boire en amont ou dans le train en chemin, ça me semble, illusoire. L'alcool, évidemment, mais dans tout lieu de fête, l'alcool est un facteur qui peut favoriser, déclencher. Mais les gens qui vont y arriver, en général, ils ont quand même ça très quelque part derrière leur tête, parce que les autres personnes,
L'alcool, c'est un phénomène aggravant. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment en capacité? Alors, si, il faut quand même mettre un bémol, parce que la vraie question, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'interdire l'alcool autour, aux abords des stades? C'est un peu complexe. Bien que
c'est
ça ait
fonctionné. Mesure décidée, en tout cas.
Oui, mais bien que ça ait fonctionné quand même. Parce que, le dernier match, qui était soi-disant à risque, bon, les gens, alors le problème, c'est aussi les stadiers. Il faut pas laisser rentrer sur le stade des gens qui seraient, j'allais dire, ivres morts. C'est pas le terme, mais en fait, qui seraient ivres. Là, ça devient très compliqué parce qu'il faut faire les palpations, faut vérifier s'il y a pas de couteaux, d'armes par destination, et en même temps les faire souffler dans le ballon, ça devient extrêmement compliqué.
D'accord. Éliminer les équipes quand les hooligans vont trop loin, c'est une bonne solution. Ça peut faire bouger les lignes, Luc Poignant, toujours.
Écoutez, pourquoi pas. Je pense que toutes les mesures sont bonnes. Maintenant, c'est un peu injuste. Parce que vous avez des hooligans qui sont absolument pas fouteux, ils viennent, ils prennent, je lisais un article justement sur l'hooliganisme russe, ils prennent l'avion, ou ils prennent le train, ou ils prennent n'importe quel moyen, ils arrivent, ils se tapent, ils repartent, ils voient même pas le match. Donc c'est un peu compliqué d'éliminer, c'est surtout un peu injuste, mais si c'est une mesure qui peut prendre forme et qui peut effectivement au moins calmer le hooliganisme, pourquoi pas, même si elle est injuste.
Nicolas Ksismartov.
J'en doute aussi, parce que d'abord, la vraie question, c'est la responsabilité des équipes, des fédérations et des pouvoirs publics. Si on a le sentiment que les pays ne font absolument rien et que même voire ils encouragent, là on peut effectivement demander à l'UEFA et peut-être que les pays concernés peuvent avoir, mais c'est quand même très, les cas de figure assez rares. Je pense pas que ça soit la solution, et ça peut même rajouter de la tension et un sentiment d'injustice, parce qu'on peut dire, alors on va mettre des graduations, à quel moment on considère que le hooliganisme concerné est vraiment suffisamment grave pour que cette équipe soit exclue du tournoi.
D'accord. Alors est-ce que ça pose la question de l'accueil des compétitions de foot en un même point avec les problèmes de sécurité que ça pose, hein? Est-ce qu'un championnat, par exemple, entre nations qui serait moins concentré, à l'image de ce qui se fait en Ligue des Champions, par exemple, serait plausible?
Non, à partir du
moment. Une solution.
C'est même pas ça. C'est qu'à partir du moment où on sait qu'on va organiser une coupe, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la Coupe du Monde, en 98, on a organisé la Coupe du Monde à Paris, enfin, au Stade de France, et il n'y a pas eu énormément de problèmes. Le seul souci aujourd'hui, c'est que mes collègues, sincèrement, ils sont à plus qu'à flux tendu. Ouais. Ils sont usés à la corde. On fait tout en même temps. Ouais. Donc, à un moment, il est vrai qu'il y a peut-être une baisse de vigilance. Mais encore une fois, je tiens à souligner le professionnalisme, parce que malgré la fatigue, malgré tout ce qu'on a, et y compris aujourd'hui, on est un jour particulier, malgré tout ce que l'on peut avoir comme charge de travail, néanmoins, ça se passe quand même bien.
Peut-être une dernière question, mais alors rapidement, parce qu'on est en bout d'émission. Est-ce que c'est inhérent au football, le hooliganisme? Vous aviez l'air de dire.
C'est lié au fait que le football est un phénomène.
Non,
mais c'est un phénomène social extrêmement important. Donc forcément, vous avez, comme dans toutes les sociétés où il y a des formes de violence qui s'expriment, également dans le football, parce que les gens qui sont passionnés vont aussi utiliser cette méthode. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le football. Vous allez dans certains pays de l'Est ou même en Grèce, vous avez du hooliganisme autour du basket, du water-polo. Et donc c'est, je pense que c'est le phénomène social sportif en soi, quand il devient de masse, est aussi important et aussi central. Draine inévitablement cette réalité.
Bon, en tout cas, la situation s'est un petit peu calmée depuis les incidents de Marseille, on peut dire ça?
Oui, on peut le dire.
Bon, allez, on n'en dira pas plus ce soir. Merci à tous les deux, Luc Poignant, donc porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et Nicolas Ksismartov, le journaliste à SoFoot. C'est la une, c'est l'euro, j'imagine, de votre journée.
Oui, il y avait un guide, et évidemment, c'est l'euro, puis on est dessus sur le site tous les jours.
Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission, à Fabrice Violet qui l'a réalisé. Merci à vous de votre fidélité. Un nouveau débat, ce sera lundi. Anne Souhaitemont et ses invités évoqueront les festivals de l'été en France et leurs difficultés financières. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.
Une semaine d'actualité.